Mathieu, Google a démantelé son comité de réflexion sur l'intelligence artificielle. Pourquoi?
C'est drôle parce que je t'en ai parlé il y a de ça à peine quelques jours. Ben, c'est qu'il y a eu une mobilisation de certains employés de chez Google, en fait plus de 2000, parce qu'ils étaient inconfortables avec la présence de certaines personnes, comme par exemple la présidente de Heritage Foundation, qui a des positions, je dirais même publiques, anti-trans, anti-LGBT et anti-immigrants. Donc, on avait peur que sa présence sur un comité destiné à réfléchir sur l'éthique de l'intelligence artificielle, ben, sa présence pourrait avoir une influence peut-être pas désirable, et on était aussi inconfortable qu'un des une des personnes était un dirigeant d'une société spécialisée dans les drones. Donc on avait des craintes que l'on puisse peut-être influencer ou laisser passer certaines utilisations de l'intelligence artificielle à des fins militaires. Donc Google a dit qu'il mettait fin au comité et qu'il reprenait leurs réflexions depuis le début, parce que ça va être extrêmement intéressant et c'est très pertinent de le faire que d'avoir ce genre d'experts qui vont se poser des questions sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est légitime, c'est-à-dire que les gens qui ont signé cette pétition-là craignaient que les personnes au sein de ce comité nuisent au développement de ces nouvelles technologies.
J'ai lu cette semaine qu'Amazon voulait lancer des satellites dans l'espace pour offrir un service Internet dans des régions où les connexions sont soit mauvaises ou totalement absentes.
Absolument, c'est le projet Kuiper, et ils ne sont pas les seuls dans cette course-là à essayer de connecter la planète entière. Là, Amazon est le plus récent joueur, mais c'est un projet aussi que caressent Google et Facebook. Google, c'est avec des espèces de ballons presque atmosphériques, là, presque des sondes météorologiques, où on pourrait comme ça les déployer dans certains endroits du monde pour avoir des connexions dans des endroits extrêmement reculés. Donc, c'est une initiative, mais là, cette fois-ci, satellitaire, qui donnerait accès à Internet dans des endroits, comme tu l'as dit, très mal desservis ou c'est carrément absent. Ce qui est intéressant, mais en ce moment, rien à ce sujet-là, c'est que Amazon, ben, pourrait peut-être utiliser son expertise maintenant dans le domaine spatial, parce que on pourrait penser que ça pourrait se faire via la société spatiale Blue Origin, qui est une propriété de Jeff Bezos, mais rien encore à ce sujet. Mais la croissance, notamment pour Facebook, ça peut passer par des endroits où les connexions Internet sont à ce point mauvaises qu'on a de la difficulté à accéder aux services.
Les yeux sont tournés vers la Corée du Sud, qui a lancé sa couverture cellulaire 5G.
Oui, et avec un peu d'avance, ça c'est tout à leur honneur. Donc la couverture 5G, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait la nouvelle génération de services de données. C'est-à-dire quand vous sortez de la maison et que vous êtes capable d'accéder à Internet sur votre téléphone intelligent, c'est pas votre Wi-Fi de la maison qui vous suit partout, c'est un service de données. Ça s'appelle en ce moment soit LTE ou encore 4G. Donc c'est la prochaine génération qui va être beaucoup plus rapide. On parle d'un débit Internet 20 fois supérieur à ce que l'on a en ce moment avec la 4G. On parle de téléchargement de films dans à peu près 1 à 2 secondes et de vitesses qui pourront osciller entre le 1 gig par seconde, Paul, et le 5 gig par seconde. Et des optimistes voient que ça va aller beaucoup plus rapidement. Plus de connectivité, la voiture autonome, son développement va être lié notamment à ces nouveaux réseaux beaucoup plus rapides, les villes intelligentes, le transport urbain, mais pour notre propre divertissement, la consommation de films en très haute qualité, la réalité virtuelle aussi va être beaucoup plus accessible et à peu près n'importe où. Et le nouveau service de Google dont on a parlé, Stadia, avec des jeux que l'on pourrait utiliser sans même avoir les télécharger, c'est-à-dire que ça se fera en flux continu, donc on pourrait jouer exactement comme on consulte YouTube ou Netflix. Eh bien, ça va prendre des connexions très rapides. La Chine est dans le portrait, le Japon aussi, les États-Unis. Pour ce qui est du Canada, ne vous attendez pas à un grand déploiement très rapidement. Peut-être quelques pochettes ou secteurs, mais ça va se faire très lentement.
Il y a 25 ans, Kurt Cobain décédait tragiquement, mais son œuvre est partout sur le web.
Et c'est fascinant. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Kurt Cobain parce que vous êtes trop jeune, ben, vos parents vont pouvoir vous en parler. On sait exactement où on était en 94 quand la nouvelle est tombée. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers YouTube, de superbes archives musicales. Il y a 4,1 millions d'abonnés et les clips visionnés sur la chaîne de Nirvana ben c'est un total de 2,4 milliards de visionnements, comme quoi les gens aiment encore et veulent voir les prestations de Nirvana, des vidéoclips, des albums presque au complet, des prestations live, dont cette magnifique prestation à MTV, le fameux MTV Unplugged, où Kurt Cobain a livré une solide, solide prestation ce soir.
Merci beaucoup et bon week-end, Mathieu. Je reçois Marc Watteux, journaliste culturel, qui a interviewé Kurt Cobain et Nirvana lorsqu'ils ont été de passage à Montréal en 1991, à 18h05 donc.